10. Le soir du même jour, elle lui avait donné rendez-vous pour la première fois chez elle. Il avait longtemps refusé de venir, disant « Pourquoi pas comme d'habitude ? Ça me gêne, tu comprends ? Et puis si ton père par hasard, est-ce qu'on sait jamais ?» Mais elle, « Justement, il m'a dit qu'il ne rentrerait pas avant minuit, parce que le poste fait une ronde. » Il continuait à dire non. Il n'a pas pu continuer jusqu'au bout. Elle avait tout arrangé dans sa tête, conformément aux indications qui lui avaient été données sur ces images, où la femme persuade aussi l'homme avec son corps. Elle lui a dit, « À 8h30, 9h, qu'est-ce que ça fait si on te voit entrer ?» Il s'étonna. « Il faudra bien pourtant, » dit-elle, « qu'un jour ou l'autre on sache tout. Alors pourquoi se gêner ? Et puis, par acquis de conscience, tu peux toujours passer devant le poste. Tu verras bien si mon père y est ou non. » Ce soir-là, M. Panser avait l'air particulièrement soucieux. Il a mangé sa soupe sans dire un mot, ni même regarder Thérèse. C'est seulement quand elle s'est levée pour aller prendre un plat sur le fourneau qu'il a porté les yeux sur elle, profitant de l'instant où elle lui tournait le dos. Elle avait une robe de toile très étroite, à courtes manches. La grosse moustache de Panser bougea. Peu de temps auparavant, elle s'était fait couper les cheveux. La grosse moustache de M. Panser bouge de nouveau, et il soupire. Mais Thérèse revenait déjà, alors vite il a ramené les yeux sur son assiette. Il était veuf, n'ayant que cette fille, qu'il aimait, et il avait peur pour elle, mais il n'osait pas le lui dire. Il s'était levé. « Tu fermes la porte à clef, Thérèse, tu sais, ce soir, et puis je ne veux pas que tu sortes. » Il ne la regardait pas. Il avait été prendre son ceinturon, et, pendant qu'il le bouclait autour de sa forte personne, « Tu as compris ?»« Non, papa, je te promets. »« Eh bien, adieu. » Elle lui a tendu la joue. 8 heures sonnaient. Elle a serré la vaisselle dans l'armoire sans l'avoir lavée. Elle a été tourner la clef dans la serrure, comme son père lui avait dit de faire, ce qui l'amusa. Puis elle ferme les contrevents. On voyait au-dessus des toits en vis-à-vis un ciel déjà tout rose, avec des hirondelles dedans, qu'elle ôte de devant elle en rapprochant les panneaux de bois pleins pour faire la nuit. On causait devant les maisons. On entendait marcher sur le trottoir. On entendait grincer les seaux sur les traverses de la fontaine. Mais elle ôte encore les voix. Elle ôte ce bruit de pas. Elle ôte les cris des seaux qui sont toujours ainsi chez nous, dans l'air du soir. Ces choses-là ne comptent pas à cause de ces autres choses. Le grand hall avait pour principal ornement des armures debout sur des socles. Un large escalier à balustres, recouvert d'un tapis d'Orient, conduisait au premier étage. Cet autre, là-bas, regarde l'heure à une pendule de style gothique. C'est qu'elle lui a donné rendez-vous, elle aussi, et il ne va pas tarder à venir. Elle monte l'escalier. Elle a une robe d'intérieur. C'est une occasion pour nous de la voir se déshabiller, puis se rhabiller dans sa chambre. Elle met une robe du soir, une robe de satin noir à corsage très bas, faisant valoir l'éclat de la peau, sur laquelle deux mains aux ongles en amande, agrandies une douzaine de fois, viennent disposer un collier de perles à 3 rangs. 127. Devant la psyché à 3 pans, profil, on la voit de face, dans le pan de gauche. 128. Gros plan, mouvement des bras. Il ne s'attendait à rien de pareil. Il a cru qu'elle plaisantait. « Puisque tu dis toi-même que le caissier laisse le coffre-fort ouvert pendant qu'il monte faire son rapport au directeur. Et puis, eh bien, si tu m'aimes seulement, tu es folle. » Il s'était tenu d'abord sur le petit canapé. À présent, il s'était mis à marcher de long en large dans la pièce, ce qui ne faisait guère que 2 ou 3 pas dans un sens et autant dans l'autre. Alors il tournait sur lui-même. Il allait, il revenait, il allait, il revenait. Il était grand, mince, élégant, tout jeune. Elle lui a dit, « Combien peut-il y avoir dans le coffre à la fin de la journée ?»«
C'est bien une question de femme. Que veux-tu que je te réponde ? Ça dépend des encaissements. »«
Enfin, à peu près. »
« Je ne sais pas, moi, 50, 60, 100 000 francs. »«
Ça suffirait. » Il s'arrête. Il devient tout rouge et,
en même temps détournant les yeux. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il était devenu tout pâle. Il recommence à marcher. Il ne la regardait plus. Il faisait un grand effort avec sa nuque pour s'empêcher de la regarder. Tant pis. Elle s'était laissée aller en arrière dans le coin du canapé. Elle semblait se parler à elle-même. « C'était une occasion, la dernière, car je te préviens que je ne reste pas ici. Et comme je n'ai pas d'argent,
si ce n'est pas avec toi que je m'en vais,
il a dit « Thérèse !» et, étant venu, il lui parle, penché sur elle. « Thérèse !» Plus fort. « Thérèse !» Mais, elle continue de tenir ses yeux fixés au-dessus d'elle, cherchant parmi ses souvenirs. Cette autre, comment s'y prend-elle, quand il faut que là aussi l'homme finisse par céder ? Sur le divan recouvert d'étoffes chinoises brodées de fleurs et de dragons, et lui tombe à genoux, là-bas. Il tombe de même à genoux, ici. Mais Thérèse l'écarte du bras. « Non, » a-t-elle dit, « tu peux t'en aller. Je sais maintenant ce que je dois penser de toi. »« Thérèse !»« Alors, veux-tu me laisser parler ? Va t'asseoir. » Il s'assied. Cet autre, là-bas, avait fait de même. C'est comme ça qu'ils deviennent dociles. Offrir, refuser, offrir à nouveau. « Car, disait-elle, qu'est-ce que tu risques? Tu attends que le caissier soit sorti. Tu me dis que ses comptes sont faits. Il se contente de tourner la clé du coffre à son retour. Toi, tu as glissé les billets dans ta poche. Il n'a rien vu. Il sort. Tu sors. » Elle s'était redressée. Puis, se penchant en avant les bras sur les genoux, cherchant des yeux ses yeux à lui, qui se dérobent sous les siens comme la bille fuit sous le pied. « Tu sais bien qu'on ne peut pas se passer d'argent si on veut partir ensemble. Tu sais bien la vie qu'on aurait ici si on restait. Est-ce que j'obtiendrai seulement jamais la permission de t'épouser? Et puis, ça ne me fait pas envie. Viens ici. » Il ne bougea pas. « Je te le répète, qu'est-ce que tu risques? Parce que tu prends une auto, tu viens me chercher. On saute dans le train de nuit. Même le samedi, c'est à midi que vous fermez. Tu auras toute l'après-midi pour mettre tes affaires en ordre. « Allons, viens !» Elle s'arrête, elle reprend. « Le lundi matin, nous serons déjà en pleine mer, ensemble !» Elle fait alors, d'un mouvement de tête, aller ses cheveux courts en arrière de ses oreilles, se redressant en même temps. Puis, « Est-ce oui ? Dis, Marcel !» Puis, « Tu viens ?» Il ne bouge pas. Il va en avant à son tour. Il se laisse tomber, lui aussi, les bras sur les genoux. Il tient la tête de côté, faisant toujours un grand effort avec sa nuque. « Tu viens ?» Il ne vient pas. Pourtant, elle n'a pas quitté sa place. Elle pourrait aller le chercher. Elle ne va pas le chercher. Elle se contente de dire encore « Je t'attends. Tu vois, je t'ai fait une petite place. Viens vite, tu me diras oui à l'oreille. La petite place que tu aimes, tu te rappelles bien, Marcel ?» À ce moment, il n'a pas pu s'empêcher de la regarder. Alors il s'est levé. Il vient. Et elle, au bout d'un certain temps, « Alors c'est oui ?» Il dit toujours non avec la tête. Elle prend cette tête dans ses mains. Elle la prend dans ses deux mains. Elle l'approche de la sienne. « Et à présent, est-ce oui ?» Empêchant entre ses deux mains le mouvement du non de se faire encore, qui se fait toujours, cependant, mais de moins en moins marqué. « Ah, je savais bien. Alors, dis, tu m'aimes ?» 147. Gros plan. Le baiser. L'obscurité, partout, déborde l'écran, en gagne lentement le centre. 11. L'obscurité, en effet, s'étendit lentement sur la toile blanche, à cette même heure, dans la salle communale. Puis les pâles lampes électriques se sont rallumées au-dessus de vous. Après que tout vous avait été donné, tout vous est repris. Après cette belle lumière creusée en profondeur, riche d'être, c'est brusquement la pauvreté. Oh, quelle pauvreté, ici! Et comment est-ce qu'on va faire maintenant pour vivre? Le piano qui venait lui aussi avec sa vie, s'est tu et a cessé d'exister.
plus rien que la triste lueur des lampes, faisant voir un plafond peint en gris où rien ne change, faisant voir des murs qui seront toujours les mêmes autour de vous. Et seulement le bruit des sièges à ressorts se relevant, qui cesse, puis celui des pieds qu'on déplace difficilement encore, avec le frôlement des habits contre les dossiers. La rue était chaude sous le noir du ciel, un ciel bas et noir, plein de grosses étoiles blanches carrées comme des morceaux de verre. Il régnait au-dessus de la rue, sur les maisons basses. Il vous pesait dessus avec son obscurité. Oh, comment est-ce qu'on a pu vivre jusqu'ici, si étroit? Cette idée est dans une tête, dans une autre. Comment a-t-on pu vivre si petit, si fermé? Puis voilà que les images revenaient. Alors il se mettait à faire tomber de nouveau la cloison qui s'était reformée autour d'eux, mais pas bien solide, n'ayant pas encore eu le temps de durcir, qui cédait vite. Cette cloison de ne pas savoir, de ne pas sentir, de ne pas voir, de ne pas vivre. Car maintenant, le monde entier est à nous, si on veut. Tous les siècles sont à nous, tout l'espace. Ayant le vertige, mais c'est bon. Ayant la tête qui leur tournait, mais c'est bon. Dans la chaleur, sous le ciel bas, sous le ciel noir, entre les maisons aux fenêtres noires. Sortant vers 11 heures par petits groupes, l'homme et la femme, deux ou trois jeunes gens ensemble, des filles et des garçons ensemble, des hommes seuls, des femmes seules, se taisant, parlant tout à coup, «
Parce que Charette, je vais vous dire !» Il a donné un coup de poing sur la table de fer.
C'était le nommé Jottran. Et c'était à la terrasse du Petit Paris. Alors, entre les phrases, on entendait venir le lac. Vers la fin de la journée, le vent avait changé de direction. C'est pourquoi le lac venait d'un autre côté, derrière la jetée. Lourdement. Puis un long silence. Ici, à cette table, parmi plusieurs garçons qui l'ont accompagné et deux demoiselles qu'il a invitées, leur ayant fait servir de la bière, c'était Jottran. Et le lac, s'étant fait entendre, s'est tu. Je vais vous dire, parce que c'est à présent comme si on pouvait être mort et pas mort, les deux choses ensemble. Dans le fond de la salle, Joël était avec Chautan et Lugrin. Dans un coin, il y avait Calamin. Et Jottran était assis à la terrasse avec ses amis et les deux dames. Comme si vous, par exemple, mademoiselle Henriette, je vous voyais comme vous êtes et, en même temps, vous seriez au cimetière sous une croix, sous une pierre plate, sous une ancre, sous une colonne brisée, ou bien encore sous des fleurs, mais enfin quelque chose, et en tout cas de la terre, une bonne épaisseur de terre. Alors je dis, n'est-ce pas vous? Levez un bras, c'est ça, vous êtes morte. Rang! Comme quand un homme fend un tronc à coups de hache, ou l'ouvrier boulanger levant des deux mains sa boule de pâte, fait un arrêt, puis il la laisse tomber avec une espèce de râle. Les grandes étoiles blanches bougeaient à peine. Morte, je vous dis, morte et au tombeau. C'était noir dans le ciel. Dans le ciel, c'était noir et blanc. Morte et vivante, vous avez tous lu l'affiche, on y donne même la date de son décès. Et pourtant voilà qu'en effet, elle s'est mise à bouger devant eux et à s'avancer, comme ressuscitée avant le jugement. Voilà que d'elle-même, et sans attendre que la permission lui en eût été donnée, elle avait crevé la terre avec son front, elle avait soulevé la dalle. Elle s'était mise debout et venait, tordant les bras au-dessus de sa tête, comme pour se défaire de l'ombre, et encore empêchée par elle, mais l'ombre déjà s'en allait. Oh, une belle chair, chaude et pleine, qu'elle élève, qui éclaire, qui vous persuade, une chair vivante, de la vraie. Chaude, ronde, pleine, vivante, non pas ces tristes ossements froids à toucher, qui se renfle, se tord, se gonfle, va dehors, revient en arrière, non pas ces tristes ossements semblables à des dés à jouer, à des gobelets,
à des baguettes de tambour, séparées, qui se prennent séparément, qui ne tiennent plus ensemble.
Tandis qu'elle, hein, ça se tient-il ?
Dit Jautran. Et il la montre qui s'avance. Une joliment belle plante, et on la mettrait bien dans son lit, si on pouvait. Ou quoi ? A-t-il dit encore. Puis il rit. Mais le lac, une fois encore, est venu, avec son bruit plus fort qu'il met autour de ce rire. Puis le lac retombe, il se tait aussi. Et c'est pendant le silence qui a suivi qu'on a entendu pour la première fois ce soir-là la voix de Joël qui a dit « Tu as raison, Jautran ». Joël a relevé sa tête qu'il avait longtemps tenue baissée. On a vu de nouveau les creux qu'il a sous les pommettes, ces deux creux d'ombre chaque jour plus profondément marqués et plus noirs. On a vu de nouveau les deux cornes qu'il a sur le front. Il se tenait tourné vers la porte ouverte, par où il pouvait distinguer vaguement le groupe installé sur la terrasse. Il continuait de parler. Il a été ramené parmi nous, ou si c'est plutôt nous qui étions allés à lui. Mais enfin, pour un moment, tous ceux qui étaient là se sont trouvés en société, c'est-à-dire Chautan, Lugrin, Zumba qui venait seulement d'arriver, Calamin assis tout seul dans son coin, et le groupe de la terrasse. On a parfaitement compris ce que Joël disait. Il disait « Ça n'est pas encore tout à fait la même chose que moi, vous, mais le résultat est le même. Et ce qui compte, c'est le résultat. » Il recommence. La grande affaire, c'est qu'on s'est enrichi. Et cependant, il ne bougeait aucunement, ni de la tête, ni du corps, ni d'aucun de ses traits, ni de ses bras non plus, étant accoudé sur la table. Il était dans une complète immobilité, parce que c'est au-dedans de nous que ça se passe. Il n'y a plus de temps, et Jésus est de nouveau ici. Et je répète que ce n'est pas tout à fait la même chose pour vous que pour moi, mais je vous dis merci quand même. » Il se passe la main sur les yeux. Je dormais. C'était gris. Immobile, la tête immobile, mais ses yeux petits et noirs brillent tout à coup plus encore dans le fond de leur trou d'ombre. « Parce que, a-t-il dit, il y avait de la poussière dessus, et ils ont été nettoyés. » « Et, a-t-il dit, c'est pourtant drôle, car ce n'est pas pendant qu'on y était qu'on voyait. » C'est à présent qu'on n'y est plus. On n'aime pas pendant. On aime après. À ce moment, le rapide de minuit s'est annoncé. Une cloche sonne à la station. C'est après que le lac est venu encore une fois. Puis il ne vient plus. La cloche sonne. On entend naître une rumeur. C'est quelque part dans le pied du mont. On ne sait pas si c'est à l'est ou à l'ouest, à cause de l'écho dont le mont tout entier dans sa concavité s'empare et qu'il pousse en avant. On en est tout enveloppé. Puis il y a là-dedans comme des mots qui s'élèvent. Il y a des chocs qui sont comme des syllabes qui viennent. Des noms de pays vous arrivent et sont prononcés. Comme quand le marchand de journaux crie en courant sa marchandise. Et Angleterre, France et Europe, puis Italie, Europe, puis Asie, Londres, Brindisi, Bombay, qu'eux ont entendu, dont ils comprennent le sens, qu'ils entendent avec tout leur sens pour la première fois, tandis que la rumeur grandit encore, faisant trembler les vitres, diminue, va plus loin, meurt, n'étant ici que de passage, étant déjà à une autre place dans sa course à travers l'espace qu'elle énonce à mesure et nomme, qu'elle illustre de sa voix. Et plus rien sous les étoiles blanches et le ciel noir, plus rien que nous, mais il y a nous. Et, à commencer alors Calamin, ça suffit. Calamin venait le dernier, avec sa grosse barbe ébouriffée, ses cheveux sur le front, ses épais sourcils. Et il y a moi, et il y a vous. Moi, j'ai déjà trouvé tout ça de mon côté, et pas de la même façon que vous, et par un troisième chemin. Mais ça ne fait rien, puisqu'on se rencontre. Il montre son verre. Il le lève. Il y a un petit peu de couleur jaune dans le verre en verre blanc. Il a dit, sans bouger, là-dedans. Il allait continuer, mais justement, minuit sonnait. Alors on a vu apparaître entre les lauriers roses et à l'extrémité de la large barre de lumière sortant par la porte, deux galons d'or qui ont brillé. Au milieu de toutes ces choses, et au milieu de nos richesses, par un brusque rétrécissement, il y a eu ces galons d'or au-dessus d'un pantalon. Puis toute la personne de M. Poncer a été vue. Son ceinturon, sa casquette, sa grosse moustache, et derrière lui venaient deux hommes du poste, deux autres gendarmes, avec leur revolver. M. Poncer tira sa montre. « Dites donc, M. Cortésie, l'heure est passée, vous êtes à l'amende. » Et au consommateur, « Allons, plus vite que ça !»« Et vous ? » a-t-il dit à Joël, qui se levait. « Je vous surveille particulièrement. » 12. Alors, le lendemain, autour de la table recouverte d'un tapis vert, avec des encriers et tout ce qu'il faut pour écrire, ces messieurs de la municipalité étaient entrés en délibération. On avait pris connaissance du rapport de M. Poncer. Au cours de cette même dernière nuit, deux amendes pour fermeture tardive d'établissements publics avaient été prononcées. Trois arrestations opérées pour tapage nocturne. Ça allait bien. « Ah oui, ça va bien, » dit M. Ravussin, ayant d'ailleurs ses raisons personnelles, ses propres raisons à lui, mais qui la tue, de ne pas être rassuré. « Alors, messieurs, je pense que le mieux que nous ayons à faire est d'aviser sans retard aux mesures à prendre, dont l'une, du moins heureusement, n'offre pas de difficultés. » Tandis qu'il dépliait une feuille de papier timbré sur laquelle les nombreux articles du contrat avaient été transcrits à la machine. Mais on a entendu le bruit d'un carreau qui dégringolait sur le trottoir. L'hôtel de ville est situé dans le milieu de la grand-rue, en sorte qu'on n'a qu'à se pencher par la fenêtre pour l'apercevoir tout entière, dans son peu de largeur, jusqu'à ses deux extrémités. Il fut donc facile de connaître tout à la fois le lieu de l'accident et ses auteurs. À 50 pas au plus des fenêtres de l'hôtel de ville, on a pu voir M. Christin, l'épicier, sortir en gesticulant de sa boutique dans le même moment qu'une troupe de gamins costumés en indien, des plumes sur la tête, armés de haches, de pistolets, de massues, disparaissait dans une des rues latérales. « Jusqu'aux enfants maintenant qui s'en mêlent. S'il vous plaît, messieurs, dépêchons-nous. Il me semble, quant à moi, que l'article 12 bis est clair. Il nous permet de résilier le bail en tout temps et sans avertissement préalable, si la sécurité publique l'exige. La sécurité publique. Une bande d'apaches, disait M. Christin. Et c'était de la chance encore que sa vitrine fût à la vieille mode, c'est-à-dire faite de beaucoup de petits carreaux séparés par des croisillons, sans quoi. Justement, moi qui avais l'intention de les remplacer par une glace, mais j'ai reconnu deux ou trois de ces brigands. Ils verront. C'est un caillou. Pas du tout. Ils ont donné un coup de bâton dans la vitrine. « Moi, je vous dis que c'est un caillou !» On a essayé alors d'aller retrouver le corps du délit parmi les boîtes de vermicelle, les pots de confiture, les morceaux de savon. On n'a rien trouvé du tout. Et cependant, monsieur Ravussin, il faudra prévenir immédiatement par lettre le docteur Morin d'avoir à tenir enfermé son pensionnaire, sous peine d'arrestation. Mais à présent, c'était madame Roy qui est sortie de la pharmacie. « Non, laissez-moi !» Elle criait. « Je vous dis que non, laissez-moi. Ah, mon Dieu, c'est fini !» Ces messieurs sont allés se mettre, encore une fois, à la fenêtre. Ils voyaient que tout se tient dans la vie des communautés. Et tout va vite, car un dérangement en entraîne deux, et deux, quatre. « Laissez-moi, je vous dis, il faut que je bouge !» Elle était entrée à la pharmacie pour un remède qu'il avait fallu préparer. C'était l'affaire d'un quart d'heure, et le pharmacien lui avait dit de s'asseoir. Mais elle n'avait pas pu rester assise. « Et je peux pas rester assise, et je peux pas rester debout non plus, ni être ici, ni être là. Non, laissez-moi, je vous dis. Et puis, allez voir si c'est prêt. Puis, non, n'allez pas voir. Puis, de nouveau, ah, mon Dieu, la pauvre petite. Une double pulmonie. Heureusement qu'il y a mademoiselle Suzanne qui est là. Suzanne, bonjour, vous savez, la blanchisseuse. Elle est bonne, elle. Elle est venue tout de suite. C'est elle qui la veille. Moi, je deviendrai folle. « Est-ce prêt ?» Les deux attroupements qu'il y avait eu d'abord n'en faisaient plus qu'un. mais n'est-ce pas aussi que tout se tient ? Car voilà que Madame Roy recommence. Et dire que c'est sa faute à lui ! Elle criait de plus en plus fort. « Oui, c'est Joël, ce Louis Joël. C'est lui qui me l'a prise. Tout ça, c'est de sa faute à lui, tout ce qui arrive. Il nous a empoisonné l'air. » Il dormait pendant ce temps. À présent, il dormait une partie de la journée. Il n'a pas entendu sa mère qui lui parlait debout près de son lit. On avait ramené Madame Roy dans la pharmacie. Il n'entendait rien, couché sur son lit. Ni les reproches, ni à présent, ses plaintes, une première fois, une deuxième, la troisième, ses explications, ses lamentations. « Au moins, Louis, écoute-moi, Louis, ne sors pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Madame Roy est encore venue me faire une scène. Et puis il y a Suzanne. Oh, mon pauvre ami, mon pauvre garçon, à quoi penses-tu ? Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse de toi ?» Mettant, comme elles font, sa main à plat contre le côté de sa figure. Mais il ne répond pas sur le lit. Il ne bouge pas sur le lit. Il a seulement ouvert les yeux. Il la regarde. Est-ce qu'il la voit ? On a tendu à Madame Roy la bouteille enveloppée d'un papier de soie à rayures. On la tient par-dessous le bras. On lui a pris son porte-monnaie. On prend dans son porte-monnaie l'argent pour payer le pharmacien. On l'emmène. Et voilà aussi M. Christin, qui est déjà monté sur une échelle, et, avec un ciseau et un marteau, fait sauter le ciment du carreau cassé. Il y a un bruit dans l'air. Il y a au-dessus des toits une rumeur, comme quand une ruche essaime. Comme aussi, quand on a la fièvre, ce bourdonnement qu'on a dans les oreilles. Chaque jour, vers midi, le temps tournait à l'orage. L'orage ne voulait toujours pas éclater. 13. L'orage ne voulait toujours pas éclater, bien que chaque jour, vers midi, le ciel se couvrit entièrement. Alors on vivait la seconde moitié de la journée sous un couvercle gris qui empêchait tout mouvement de l'air. Ce n'est pas par le vent que ces bruits ont été apportés, traversant le ciel au-dessus de nous. Ils sont venus de bien plus loin qu'on ne peut croire, ayant été d'abord dans les têtes, puis dans les cœurs, puis s'étant échappés. Il y a eu le monde qui venait. Et ces morceaux de monde continuellement venaient, comme des migrations d'oiseaux, bougeant un instant au-dessus des toits, et ils passent, mais déjà d'autres les avaient remplacés. Et, en même temps, il y avait les bruits réels. Il y avait les deux espèces de bruits, l'inventé et la pas inventée, mais elles se mélangent. Les téléphones sont avec leurs notes qui chantent dans les fils. Et la télégraphie s'enfile, vient avec ses messages, chantant autrement et sans fil. L'inventé est entendu, le pas inventé grossit beaucoup de fois. Les trains, encore un express, les petits trains de banlieue, un rapide, tous les trains. Et une cloche sonne, et de nouveau une cloche sonne. Les bateaux à vapeur sifflaient, rauques, dans le même temps qu'ils ébranlaient l'eau, jusqu'à la rive, avec leurs roues, et l'ébranlement de l'eau communiquait son mouvement à la terre, sous vos pieds. L'horloge, une voix, une toux, des cris d'enfants, puis de nouveau des choses qu'on ne savait pas. Et c'est de la vie seulement, c'est la grande vie où on est entré, qui vient à vous, circule, vous tourne autour, s'en va plus loin, recommence à venir. Et on entend vivre à l'autre bout de la terre. Et vivre l'autre bout de la terre, tous ses bouts. Tandis que les paroles qu'elle vous envoie font de l'ombre au-dessus de vous, font ses formes au-dessus de vous, ses apparences, ses corps de brume et de nuages qui se déplacent. Et on ne sait plus si on voit ou si on entend. On entend et on voit tout à la fois. Des odeurs aussi qui passent. Encore un enfant qui crie. L'enfant se tait. L'horloge, il y a la grande odeur chaude du poisson. Ça sent la cannelle et les épices. Il y a une odeur de fumée comme quand les savanes sont en feu. Ça sent les épices et la vanille, en même temps que c'est comme tout un continent qui vient dans le ciel. C'est toute l'Asie, toute l'Afrique,
ce nuage noir. Alors on a commencé à avoir peur. On commence à avoir peur parce que ça a grandi encore. On est assourdi, on est aveuglé. Et c'est beau, mais c'est trop grand. Probablement que le docteur Morin n'avait pas encore reçu la lettre, ou peut-être que l'homme avait réussi à s'échapper. Il venait, en effet, de paraître. Il apparut pour la dernière fois, entrant dans la ville, du côté du Levant. Il s'avança seul, d'abord, sous le déroulement au ciel de ces choses qui venaient, qu'il ne semblait pas voir, et dans leur bruit, qu'il ne semblait pas entendre. Il est venu une fois encore, il venait pareil à lui-même, et l'ombre de la rue, car son orientation faisait que même par le plus beau soleil, en quelque saison que ce fût, elle était tout le jour dans l'ombre, a cessé d'être. Elle cessait d'être à mesure qu'il venait. Madame Raymondin est alors venue se mettre sous une de ses petites fenêtres, la tête levée, et elle appelait. Une cloche sonne, un train passe. Madame Raymondin se tenait sous une de ses fenêtres du premier étage. Et là, on va mourir. Mais il vient. « Madame Roy, Madame Roy !» La fenêtre s'est ouverte. « Apportez-la, apportez-la vite, parce qu'il vient et il la guérira !» Parlant ainsi vers la fenêtre, et une tête s'y est penchée. Cette tête tout à coup a été en arrière. Car peut-être bien, mon Dieu, alors il faut essayer. Et toujours, au-dessus des toits, ce grand bourdonnement, comme quand les ruches sont en plein travail, et en tous sens les abeilles vont et viennent. Là-haut, la grande ruche du ciel. Puis il y a eu qu'en bas aussi ça s'est animé. Madame Raymondin n'avait pas bougé de sa place, qui était l'entrée de l'allée, où elle attendait et ne bougeait plus. Lui venait d'un côté, les gens venaient de l'autre. Elle ne bougeait pas, étant là entre lui et eux. C'est ainsi que Madame Roy a eu le temps de descendre, pendant qu'on entendait une voix venant de l'intérieur de la maison, qui criait « N'allez pas, je vous dis, dans l'état où elle est, vous allez la tuer !» Mais la voix n'a pas été obéie, car on a marché dans l'allée, et tout de suite après, dans la nuit de l'allée, Madame Roy a été vue à cause de ce quelque chose de blanc qu'elle portait. La petite Juliette qu'elle portait, l'ayant roulée à la hâte dans une couverture, puis soulevée, mise contre elle. Et tout à coup on a pu voir cette figure en cire blanche, avec des lèvres bleues et les paupières bleues couvrant les yeux bombés, venir dans le grand jour. Et de nouveau la voix s'est fait entendre dans l'escalier. « N'allez pas, s'il vous plaît, n'allez pas !» Madame Roy, sans l'écouter, s'était déjà tournée vers la partie éclairée de la rue, le côté brillant de la rue où il venait. Elle s'est mise à avancer. Il était comme toujours, il était brillant et blanc. Il se tenait très droit, comme toujours, avec ses cheveux longs dans la lumière et sa barbe. Il a commencé à lever la main. Mais alors la petite Juliette, elle qui était comme une morte, a ouvert les yeux tout grands. Elle a encore trouvé la force de les ouvrir et trouvé la force de voir. Seulement tout ce qu'elle a vu, c'est que c'est un autre qui était là, pas celui qu'elle espérait, pas celui qu'il aurait fallu. Elle s'est jetée de côté, se cachant la figure dans le cou de sa mère, qu'elle serrait entre ses bras. Ils approchaient pendant ce temps. On n'avait pas fait attention à eux. Ils sont venus de l'autre extrémité de la rue et étaient quatre, c'est-à-dire que M. Panser avait trois de ses hommes avec lui. Ils allaient au pas. Ils n'ont été ni plus vite ni plus lentement qu'à l'ordinaire. Ils allaient à la cadence réglementaire comme s'ils étaient à l'exercice. Mais c'est qu'on a cette cadence dans le sang. Ils prenaient à peu près toute la largeur de la rue, marchant droit devant eux. Il a bien fallu qu'on se dérange. On a été refoulés sur le trottoir. Et déjà, il n'y avait plus, en avant des gendarmes, que les deux femmes, Madame Raymondin et Madame Roy. M. Panser a donné un ordre. On voit encore Madame Roy qui revient en courant, serrant plus étroitement que jamais contre elle cette chose blanche qu'elle porte. Elle a disparu dans l'allée. Et il y a remous,
un mouvement en rond se fait. Puis l'homme a été vu de nouveau, marchant entre deux des gendarmes qui le tenaient chacun par un poignet. Et la voix « Bien fait, bien fait !» La même voix que l'instant d'avant, dans l'escalier, mais plus rauque encore, plus aiguë, pendant que l'homme continuait d'aller entre les deux gendarmes, n'ayant fait aucune résistance, et la foule suivait à présent. Mais il y avait aussi cette voix qui suivait, partant toujours du même point, « Bien fait, bien fait !» et à une distance toujours plus grande, mais compensant chaque fois par un peu plus de force l'éloignement qui augmentait. Ainsi Suzanne n'a pas pu le voir venir, elle était trop occupée. Suzanne se tenait tournée du côté de la rue vers où elle poussait sa voix. Ainsi elle n'a pas pu voir venir Joël, qui n'est pas venu de ce côté-là. Il fut devant elle sans qu'elle s'en fût doutée. Il se trouva vis-à-vis d'elle. Et elle, comme avant, « Bien fait, bien fait !» Ces deux mots, rien que ces deux mots, et encore ces deux mêmes mots. Alors Joël a regardé vers où elle regardait elle-même. Et il y eut encore cette lumière, là-bas, qui s'est éteinte tout à coup. Elle veut recommencer. « Bien !» Sa voix est devenue comme un fil dans sa gorge. Les bras lui tombent le long du corps. Ses mains se sont mises à pendre de chaque côté d'elle, contre sa jupe. Elle avait baissé la tête. Tout à coup, voilà qu'elle la relève, comme se décidant quand même, avec un petit sourire hésitant qui lui est venu. Elle voit seulement qu'il est là, qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a rien dit. Et « Louis ! Louis, c'est vous ?» Elle fait un pas vers lui. Elle fait un autre pas vers lui. Puis ses bras se lèvent, tout seul. Il continuait à ne pas bouger. Elle tombe contre lui. Mais alors elle a entendu qu'on lui disait « Qui êtes-vous ? » Elle est poussée de côté. On lui disait « Allez-vous-en !» Et elle se porte de nouveau en avant, tout entière. Mais il s'est écarté, et elle glisse le long de lui. Elle serre encore dans ses bras ce corps qui va en arrière. Le mouvement qu'il fait dénoue les mains nouées. En même temps qu'elle sent sous elle ses genoux perdre leur solidité et céder à leur charnière. Ses genoux ont cessé de la porter. Elle vient toute sur elle-même, sa tête parmi ses bras, et ses bras parmi ses genoux, comme des choses mises en tas. Madame Lugrin tenait le plus grand de ses enfants de la main droite, le plus petit de la main gauche. À tout moment, elle s'arrêtait, les secouant tellement fort qu'André était soulevé de terre. « Je vais vous apprendre, moi !» Et d'abord, vous allez rester au lit jusqu'à demain. Ensuite, vous entendez bien, toutes les fois que je sors, dorénavant, je vous ferme à clé. » Le petit André sanglotait silencieusement, les joues couvertes, à cause des larmes, de lignes noires. Georges, au contraire, mettait son amour-propre à ne pas pleurer et à ne pas dire un mot. « Je vous avais commandé de balayer la cuisine, l'avez-vous fait ? Ah, fainéant !» Et, recommençant de les secouer, « Vous préférez aller courir et avec qui ? Une jolie compagnie, c'est du beau tout ça. Ah oui, c'est du beau !» Tout le long de la rue, puis sur le quai, puis à présent plus loin que le quai, tandis que le petit André, étant tombé à genoux sur les galets, poussait des cris. Mais elle, sans s'en inquiéter, « C'est comme votre père. Où est-il, votre père ?